Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non? Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute!
Bonjour Laurent.
Bonjour Charlie.
Pour la petite histoire, 15 ans en arrière, j'ai acheté mes premières pièces détachées de PC chez toi. Enfin, chez LDLC à l'époque. Et depuis que je suis ton aventure depuis très longtemps, l'aventure du groupe, la progression, les rachats, les multiplications des magasins, l'ouverture de l'école LC, plein de choses, mais surtout j'ai suivi l'aventure humaine. J'ai trouvé des idées assez nouvelles pour leur époque, notamment la fin des primes, la semaine de 4 jours et non pas de 4 heures, comme je disais tout à l'heure. Et des idées que tu défends aujourd'hui, et ça me plaît beaucoup, et tout ça c'est une histoire de colibri. Et du coup je me demande, Laurent, mais c'est quoi cette histoire de colibri?
Alors, c'est une histoire de colibri parce que j'ai lu cette histoire un jour, ça m'a bien plu. C'est peut-être pas exactement le colibri, mais l'idée du colibri, c'est que c'est une histoire, il y a un feu dans une grande forêt, tous les animaux s'en vont, s'échappent. Et puis en s'échappant tous, ils croisent un colibri qui est sur le bord d'un ruisseau en train de remplir son bec d'eau. Et ils lui disent, mais pourquoi toi, colibri, tu remplis ton bec d'eau? Et le colibri explique, il dit, bah en fait, je prends de l'eau pour aller éteindre le feu. Je fais ma part. Et si on faisait tous notre part, peut-être qu'on pourrait éteindre le feu. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, même si bon, le colibri risque de finir par brûler dans cette histoire, c'est le fait de dire il faut des initiateurs. Mm. Il faut des gens qui se lancent. Il ne faut pas prendre le risque d'être le seul et d'y laisser ses plumes. Mais en tout cas, à des moments, il faut oser être différent pour faire bouger les lignes. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça que je raconte l'histoire de colibri, parce que bah, j'ai tendance à dire que je sors régulièrement des cases. Et que du coup, bah, je suis un peu le colibri qui va peut-être inspirer les autres, mais qui restera vivant et qui aura d'autres idées.
Oui, le colibri n'a pas brûlé jusqu'ici, donc tout va bien. Effectivement, j'avais lu l'histoire et ça m'est beaucoup inspiré. Et en fait, j'avais vu ça sur ton propre LinkedIn, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je vais me renseigner avant de dire n'importe quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. On va rentrer dans quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, mais que tu maîtrises aussi bien, c'est le groupe LDLC dont tu es le dirigeant. C'est quoi le groupe LDLC?
Alors, groupe LDLC, c'est une société qui est devenue un groupe que j'ai fondé il y a 27 ans maintenant. Alors, au départ, pour vendre du logiciel informatique, parce que j'étais développeur. Et puis, qui est devenu un site de vente de matériel informatique pour une raison toute bête, hein, c'est que je ne savais pas coder sur Internet au départ. On est il y a 27 ans. Et j'avais envie d'apprendre. Et comme j'avais envie d'apprendre, bah, j'ai créé un site. Et je me suis dit, de quoi? Bah, vu que je vends un peu de matériel à mes clients, je vais créer un site de vente de matériel. Il n'y avait pas de business plan, c'était pas le projet de la boîte, mais en tout cas, ça a décollé très vite et j'ai balayé tout le reste. Les quelques clients que j'avais, au bout de 2 ans, j'aurais dit j'arrête tout. Et je me suis consacré 100% à la vente de matériel sur le web. Puis en boutique, parce que j'avais besoin de place. L'histoire de la première boutique, c'est juste que j'ai besoin de place pour stocker et qu'au départ, Internet, personne n'y croit. Quand on va voir un banquier, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Pour dire, hein, quand je lance le site, la carte bleue n'existe pas sur Internet. On paye par chèque. On est encore dans la vente par correspondance.
Ouais.
On est loin. Hein.
Oui, oui.
Et donc, en fait, on est vraiment un petit peu disruptif et personne ne comprend. Donc, du coup, bah, j'ouvre une boutique à l'époque pour avoir un stock, en réalité. J'ouvre d'ailleurs très précisément un cybercafé parce que l'informatique, les banquiers n'y croient pas. Alors que le cybercafé, ça inspire. Cybercafé qui n'existera jamais réellement, mais qui m'a permis en tout cas de démarrer. Et donc aujourd'hui, bah, c'est devenu une société de plus de 1100 collaborateurs. Dernier chiffre communiqué, c'est 680 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est un peu en décroissance cette année après le Covid, mais en tout cas, on se porte toujours très bien. On est largement au-dessus de 2019. Et puis, bah, c'est plusieurs sociétés, puisqu'il y a le groupe LDLC, il y a des concurrents qu'on a rachetés dedans. Il y a Matériel.net, il y a Top Achat. Il y a des petites filiales qui sont des projets souvent de salariés en interne. Blue Screen, c'est de la maintenance à distance. Anycop, de la vente de tickets restaurants. Lecteur de tickets restaurants. DLP Connect qui est sur l'installation électrique. Alors, l'histoire de celle-là, par exemple, c'était notre électricien qu'on a fini par acheter. Parce qu'on déménageait sans arrêt, qu'on n'arrêtait pas de grandir, bah, on va le faire nous-mêmes. Puis les besoins réseau et autres, Et du coup, on le vend aussi à nos clients. LDLC Pro qu'on a développé 3 ans après, qui est vraiment dédié aux pros. C'est le même catalogue, mais avec un service pro derrière, avec des commerciaux derrière qui travaillent les clients, des possibilités d'encore plein de choses. Et puis des choses plus décalées, l'armoire de bébé, c'est la vente de puériculture, qui est venue d'un autre site qui lui a raté, parce qu'il n'y a pas que des réussites dans l'histoire d'LDLC. L'armoire de bébé qui vient de Maginea. Maginea qui était un site de vente de produits de la maison, qui fonctionnait plus ou moins. Et puis dedans, on avait créé une section bébé qui cartonnait. Donc quand on a fait un imaginaire, on s'est dit, si les bébés au milieu d'un site de maison, ça marche, ben, on va lancer les bébés tout seul et on va arrêter imaginaire. On a eu des échecs, hein, je te disais, il y a eu l'imaginaire qui s'est arrêté. On a lancé Plug Square à une époque, qui était un site de vente de matériel de musique.
Okay.
Mais qu'on a fini par arrêter parce que ça décollait pas. J'en oublie, on avait Sac de filles, on était trop précurseurs, c'était un blog sur cacheter. Début de l'influence,
ouais.
Beaucoup trop tôt.
Waouh.
Et du coup, ça a raté, mais on a eu la bonne vision en avance. On avait lancé Diltonic en concurrence à vente privée, mais c'était arrivé en 2005, on avait des soucis logistiques, ça avait retardé le site qui était arrivé en 2007, c'était trop tard et ça n'a jamais décollé. Donc voilà, l'histoire est belle, mais il y a eu quelques échecs au passage.
Bien sûr. L'aventure est exceptionnelle. C'est pas trop la galère à gérer au bout d'un moment tous ces portfolios différents, tous ces espaces, tous ces mondes, entre guillemets.
Alors, c'est une super question que tu poses parce qu'en fait, je me le suis toujours dit. Quand j'ai créé l'LC, je suis quelqu'un... Alors, on ne voit plus aujourd'hui, on me voit partout, mais en réalité, c'est parce que je suis à l'aise dans ce que je dis. Mais je suis quelqu'un de plutôt introverti. Et si on m'avait dit au lancement de l'LC, un jour, tu vas gérer 1100 personnes, je pense que j'y serais jamais allé. Parce que je ne m'en serais pas senti capable. Et 5, 10, 20, ok. Mais au-delà, c'est plus le truc, il faut aller par leur parler. Je me serais dit, c'est compliqué, c'est pas possible. Et en fait, non, c'est... quand on est dans son domaine, on se rend compte que c'est pas si compliqué. Quand ça se multiplie, en fait, il faut juste trouver les bonnes personnes qui gèrent les bons projets. Moi, je suis le visionnaire, l'architecte, celui qui balance les plans. Et après, je trouve les bonnes personnes, les chefs de chantier quelque part, qui vont lancer les projets, qui vont venir me voir de temps en temps en me disant, Laurent, ton truc avec ta cathédrale, là, avec ton truc en haut, c'est inconstructible, il faut faire autrement. Et je dis, bon, ok, alors il faut faire quoi? Parce que des fois, mes idées sont un petit peu trop farfelues. Mais en tout cas, qui vont être les gars qui vont mener. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a besoin de personnes pour que ça marche derrière. Parce que oui, j'ai toujours les idées, la vision, les projets un peu fous. Tout à l'heure, on parlera de la semaine de 4 jours. C'est pareil, quand le jour où tu arrives et que tu parles de ça, forcément, ouais. Les gens te prennent pour un fou dans la boîte. Y a plein de choses. Mais quand tu as les bonnes personnes derrière pour t'accompagner dans ces projets, finalement, c'est facile parce qu'à la fin, tu gères 10-20 personnes.
Oui,
tu gères les autres.
Même, ouais, d'accord.
Tu vas quand même voir les autres. Tu as quand même besoin d'exister vis-à-vis des autres. Mais si tu es bien entouré, ce n'est pas compliqué au final.
Ça veut dire aussi que tu as une certaine conception de la hiérarchie où tu enveloppes le tout, mais on n'a pas besoin de se référer à toi.
Alors, à chaque fois, il y a une phrase que je dis à peu près à toutes les personnes avec qui je travaille.
Ouais.
Bon, on se met d'accord sur ce qu'on va faire. Et après, je leur dis, moi, je te vois maintenant, mieux je me...
J'allais dire, viens pas m'emmerder, on n'est pas loin.
Ce qui est contre-intuitif par rapport à une direction standard, où c'est plutôt tu viens me voir tous les lundis, tu fais un rapport et on remettra tout en place. Non, c'est plutôt le contraire. Alors après, je rajoute derrière cette phrase, par contre, s'il y a un problème ou qu'il y a des choses belles à se dire, tu viens tout de suite. Et on peut ne pas se voir pendant 3 mois, je m'en fiche. On peut se voir à un moment s'il y en a besoin tous les jours, parce que c'est indispensable. Mais en fait, il n'y a pas de pression. Et c'est, je te file les clés du camion et maintenant, tu y vas. Et je marche beaucoup comme ça. C'est-à-dire que tu prends mon agenda aujourd'hui, il est vide. Alors, il n'est pas tout à fait vide, à cause de la semaine de 4 jours, toujours, où je parle beaucoup. Mais si on prend par rapport au groupe LLC, j'ai quasiment aucun rendez-vous d'entre aujourd'hui et la fin de l'année. 6, il doit y en avoir 10 en tout et pour tout qui sont fixés.
Ok.
Ce qui est complètement impossible pour n'importe quel autre dirigeant que tu vas voir. Tu vois son agenda, s'il arrive à te caser dedans, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je fonctionne le matin. Tu prends hier, par exemple. Mon agenda était vide le matin en arrivant. J'ai quasiment pas touché mon PC de la journée. Ma porte de mon bureau est ouverte. Les gens viennent me voir quand ils veulent, et on discute, et on parle des sujets, et il y a toujours des gens qui vont venir me voir. Mais ce n'est pas programmé d'avance, c'est-à-dire que le matin, je ne savais pas qui j'allais voir, je ne savais pas de quoi j'allais parler, et ça va s'adapter en fonction des besoins au moment donné. Il y a des jours où je ne vais rien avoir à faire, et je vais être franc, il va même arriver de jouer à Royal Lalson. Parce que y a personne qui est venu, j'ai 2-3 trucs à faire, mais à un moment, je me prends une pause.
Okay.
Donc voilà, c'est comme ça que je gère la société, qui est un petit peu atypique, je sais, mais ça fonctionne. Et c'est basé énormément sur un mot-clé pour moi qui sera le mot, maître mot de tout ce que j'ai fait, la confiance.
Ouais. Comment tu les trouves, ces personnes? Est-ce que j'allais dire, t'as une grille mentale presque de « ok, ça va matcher »
C'est jamais des personnes que j'ai recrutées de l'extérieur. C'est des gens que j'ai découverts à travers la boîte, qui partent de très très bas. La plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils ont été embauchés souvent au SMIC, et puis que tu découvres, donc tu vois le potentiel, et puis tu leur donnes des opportunités à des moments, et puis ça décolle.
Est-ce que ça fait écho à ton propre parcours?
Pas du tout, je suis ingénieur. Et... Ça fait plutôt écho à ma vision, c'est-à-dire que moi je vois les potentiels des gens et à partir de là j'avance avec. Ça peut être le diplôme, c'est une chose, c'est une certaine garantie dans certains cas, mais en même temps il y a plein de gens qui n'ont pas eu la chance pour plein de raisons de ne pas aller jusqu'au diplôme les plus méritants et pourtant qui sont tout aussi doués. Simplement, ils ont des parcours de vie, de famille, de plein de choses qui font qu'ils ne sont pas arrivés. Et bien, quand on retrouve ces gens-là et qu'on leur donne la chance, on a des gens qui sont juste incroyables derrière.
Ouais, c'est clair. Totalement d'accord. Tu m'as décrit un peu tout ce que c'était le groupe. Qu'est-ce que ça n'est pas? À quoi ça pourrait s'opposer?
Alors, ça a été en cours de route, et je vais dire, ça n'est plus aujourd'hui, parce qu'à un moment, on s'est perdu. Ça a été une boîte hyper hiérarchique
Ok.
pendant 10 ans. Dû à un moment où on a eu. Enfin, le début de la boîte, c'était ce que c'est aujourd'hui. C'est une boîte où. Il n'y avait pas tout ça. Et puis, on se prend un grand accident logistique. On était une bande de jeunes. On était 300 à l'époque. Sur les 300, je pense que 80%, c'était leur premier job. Parce que justement, dans cette optique, on grandit entre nous et on ne se pose pas de questions. Et puis, on se prend un truc qui manque de planter la boîte. Et là, on se dit, OK, on a joué au con.
Ouais.
Et on va chercher des gens un peu capés à l'extérieur. Et forcément, quand on prend des gens de l'extérieur capés, ils arrivent, ils voient ça.
On change tout.
Ils construisent un bel arbre hiérarchique. Et du coup, pendant 10 ans, on est devenu une boîte hyper hiérarchique.
Okay.
Et c'est en lisant un livre qui était le livre d'Alexandre Gérard, Le patron qui ne veut plus être chef, qui parle d'entreprise libérée, ce qu'on n'est pas aujourd'hui, je tiens à le préciser, mais qui m'a permis de faire basculer la boîte, que je me suis dit, mais en fait, cette boîte, elle ne me plaît pas. Ce n'est pas la boîte que je voulais gérer. Et j'ai sans doute fait une erreur en faisant ça, donc il faut que je revienne en arrière. Et donc, je suis revenu en arrière en m'inspirant de certains principes de l'entreprise libérée, dont pour moi, il y a trois principes importants, qui est, comme je te disais, la confiance, parce que cette confiance derrière permet plus d'autonomie et plus de responsabilisation des équipes. Et c'est en reconstruisant ça et en déstructurant une partie de la hiérarchie que j'ai recréé ce qu'on est aujourd'hui et ce que je ne veux plus être, donc pour répondre à ta question du début, une boîte trop hiérarchique.
Ok.
Et contrôlante. Parce qu'aujourd'hui, le manager chez nous n'est plus un contrôlant, c'est un accompagnant.
J'espère qu'il y a des gens qui prennent des notes. Hein. Alors mon podcast, c'est beaucoup, beaucoup de petits entrepreneurs, mais j'ai discuté avec pas mal de gens et c'est vrai que... J'ai pas l'habitude d'entendre ça et j'ai pas eu l'habitude de vivre ça non plus en tant qu'employé. Donc je trouve ça très inspirant. Peut-être que c'est le futur, j'espère que c'est le futur.
Alors après, ça veut pas dire que de temps en temps je prends pas une décision tout seul. Hein.
Bien sûr.
Je vais te prendre un cas concret. Je sais pas si on en parlera dans tout ce que j'ai posté sur LinkedIn. Un jour, j'ai fermé toutes les salles de réunion. C'est-à-dire, un matin, j'en avais ras-le-bol des réunions dans la boîte, il y en avait sans arrêt. Et je suis arrivé un matin et le matin, j'ai envoyé un post sur le réseau interne en disant à partir d'aujourd'hui, pendant 3 mois, toutes les salles de réunion sont fermées. Décision unilatérale du patron.
T'entends bien qu'en plus une décision comme ça, c'est panique totale dans la boîte. je vois bien le problème.
Mais on l'a fait.
Okay.
Et quand on a réouvert les salles, maintenant elles sont quasiment plus utilisées. Mais c'est juste pour dire voilà, qu'à des moments, quand j'ai envie de faire bouger les choses, je ne me pose pas de questions, j'ai consulté personne, j'ai eu mon petit coup de colère. Et c'est pas très. C'est un petit côté contrôlant quand même de temps en temps. Mais c'est sur des choses parce que je veux faire bouger les lignes. Et puis je verrai après ce qu'il faut corriger. Et puis, ce n'est pas contrôlant dans le sens autorité sur une personne, etc.
Oui.
C'est plus pour faire bouger les lignes de la boîte.
Et du coup, ça veut dire que les gens qui viennent travailler pour le groupe ont conscience de ça ou en tout cas apprennent à vivre avec ce...
Ils vivent avec, et oui, ils savent comment ça marche.
Ouais.
Après, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que pourquoi je peux faire ça, et je reprends toujours le même mot, parce qu'il y a la confiance. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas confiance en toi et que tu arrives un matin en balançant un truc, c'est encore un mec complètement taré.
Ouais.
Moi, je suis taré. Mais ils ont confiance. Donc, bon, allez, on va encore voir ce que ça donne, son truc.
On teste, on croise les doigts.
Et on voit. Et des fois, j'ai pas l'exemple en tête, mais c'est dommage parce qu'il y en aurait. Mais dans les idées que je t'ai dit de boîtes qui ont coulé, c'est aussi des idées que j'ai eues qui ont planté. Le truc, on a ouvert l'Espagne, on s'est planté, on est revenu en arrière. J'ai pas eu que des bonnes idées. Ils savent que je me plante de temps en temps. Et quand je me plante, je suis capable de revenir en arrière en disant je me suis planté. En disant ça, j'ai pensé à un truc. On a fait la semaine de 4 jours avec 2 jours de télétravail. Je suis revenu vers eux il y a un mois pour leur dire on va repasser à un jour de télétravail. Autant dire, ce n'est pas forcément une chose facile à ramener dans les sens.
Ouais.
Je l'ai assumé, je me suis trompé parce que 3 jours d'absence, c'est trop. On ne se croise plus, on ne se voit plus, l'ambiance de la boîte est en train de changer.
D'accord.
Et on est en train de détruire notre ambiance, il ne faut pas que ça disparaisse.
Donc
à des moments, il faut aussi revenir en arrière, dire je me suis trompé et accepter de dire je me suis trompé. Ça aussi, ça fait partie des choses.
Gros sujet qui est vrai pour un dirigeant d'un groupe. Assez grand, à des plus petites structures. Je veux dire, moi, en tant qu'entrepreneur, des fois, en tant que solopreneur, on peut se dire, on peut se voiler la face et se dire, bah non, j'ai pas fait de conneries. Sauf que bah, les faits sont là, quoi.
Non, non, c'est des conneries, on en fait, et de temps en temps, il faut savoir le dire, il faut savoir revenir en arrière et dire, bah là, oui, j'y croyais, j'y suis allé sincèrement, mais autant de dire, hein, je me suis planté.
Justement, on va rebondir sur la semaine de 4 jours. Pour la petite note, j'ai écrit semaine de 4 heures dans mes questions, c'est une catastrophe. Donc, on va revenir sur cette semaine de 4 jours que tu as évoquée. Comment cette idée était venue?
À partir du moment où j'ai enlevé la hiérarchie, il y a encore la hiérarchie, il y a encore des directeurs, etc., mais où je l'ai diminué la hiérarchie, j'ai diminué les étages, je me suis focalisé, et c'était suite à une réunion que je suis allé faire avec les équipes en leur disant, qui était une réunion phare, hein, ça va vraiment changer, quand c'est ce retour en arrière où je leur ai dit, on est en bourse, on a communiqué récemment sur le fait qu'on fera 1 milliard de chiffre d'affaires, et en fait on va oublier tout ça, j'ai fait une connerie. Et je leur ai dit très concrètement, notre priorité à compter d'aujourd'hui, c'est votre bien-être. La croissance, on s'en fout, même si je sais que parce que j'atteins votre bien-être, je suis conscient que la croissance, elle sera là. Mais on va faire les choses à l'endroit, c'est-à-dire que c'est parce que vous vous sentez bien que le groupe va aller de l'avant. Et donc, à partir de ce jour-là, on a travaillé que le bien-être. Les salles de réunion, c'était un peu dans ce sens-là aussi, d'ailleurs, dans ma tête. Et donc, dans cette recherche à toujours trouver ce que je pouvais mettre en place pour plus de bien-être, un jour, je suis tombé sur un article qui parlait de la semaine de 4 jours. C'était Microsoft qui avait tenté au Japon pendant un mois de mettre ça en place. L'article disait 40% d'efficacité en plus, des salariés qui étaient heureux, sauf qu'ils ont arrêté.
Bon exemple, mais...
je suppose que 99% des gens qui lisent cet article avec ça, c'est arrêté, ferment le journal en se disant, eh ben, ils ne l'ont pas fait, donc il y a bien un loup quelque part. Moi, je l'ai pris à l'envers en me disant, OK, ils ne l'ont pas fait, mais concrètement, si demain je passais aux 4 jours, c'est quoi les conséquences? Et c'est comme ça que c'est parti. C'est-à-dire que c'est vraiment, l'idée n'est pas conne, je suis sûr du bien-être pour les équipes, pour la boîte, je me pose peut-être d'autres questions, mais ce serait quoi les conséquences? Et pareil, je me suis dit derrière, bon, et puis si tu le mets en place, forcément, c'est pour tout le monde. Donc, je me suis projeté. Je me suis dit, bon, bah, demain, tu mets les 4 jours, qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est assez simple.
Dans l'idée,
ça a l'air trop simple. Mais globalement, la première question que tu te poses, c'est, OK, on bosse 4 jours, donc 8h45 par jour. Je dis, si je veux mettre ça sur toute la boîte, ça ne passera pas. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont déjà des plannings serrés, ça ne passera pas. Donc, si je le fais, je dois passer à 8 heures pour que ça passe. Après, tu te dis, OK, donc si je passe à 8 heures, les salaires, je fais quoi? Bah, pareil, si je veux que ça passe, je les maintiens.
Ouais.
Donc, tu as perdu 9% d'heures, 9% de travail. Tu te dis, OK, ça coûte combien ma connerie là, si je le fais? Et tu te projettes, tu te dis, bon, 9%, c'est le pire. C'est-à-dire qu'il faudra recruter 9% de personnes à la place, c'est le pire. En réalité, ce sera quoi? Je vais être très transparent dans le raisonnement. Tu te dis, OK, le vendredi après-midi, dans les bureaux, ils foutent rien. Ouais, allez, il bosse 1 heure sur 2. Donc, tu as 3 heures, tu en as 1 heure et demie d'efficace, tu en as 1 heure et demie qui compte pas. Tu n'as pas totalement perdu tes heures en vrai. En plus, sur le reste, il y a des choses qu'ils n'ont pas le temps de penser, qu'ils sont obligés de penser pendant les heures de bureau. Tu leur offres une journée. Allez, si tu perds 1 heure grand max dans les bureaux, c'est le maximum. Par contre, logistique, les gars, c'est un travail fatigant. Ils travaillent, il n'y a pas le vendredi après-midi, il y a des colis à faire. Il n'y a pas de baisse sous prétexte que. Donc là, en logistique, tu vas devoir recruter les 9%. Et relations clients et boutique, c'est des horaires d'ouverture. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une quantité de travail, c'est une quantité d'heures. Donc, tu n'auras pas le choix. Tu pourras aussi recruter. Et partant de ça, je m'étais fait une cote mal taillée en disant, OK, ça va te coûter 5% de la masse salariale. Donc, pour le groupe LDLC, c'était 1,5 million d'euros à mettre sur la table. Et on est de sortir un EBITDA de 10 millions, donc c'était de dire, OK, je perds 1,5 million sur cet EBITDA, je suis en bourse. La valeur d'une boîte en bourse, c'est un coef de l'EBITDA, 15% de valeur en moins. Si tu es purement financier et purement calculateur sur la valeur de ta boîte, tu te dis, je ne le fais pas parce que je suis en train de déprocier la boîte. Et je dis, mais c'est mon risque maximum et j'ai envie de voir. Donc, c'est pas grave. Et c'est parti comme ça. Et d'ailleurs, quand on l'a annoncé, j'ai eu 2 questions aujourd'hui à NAO, négocier un annuel obligatoire. La première, c'était les salaires, ce à quoi j'avais répondu, ils sont maintenus. Et la deuxième, c'était on teste combien de temps? Ce à quoi j'ai aussi répondu, c'est pas un test.
Ah ouais?
On est parti et on fera pas marche arrière. Voilà.
Ah, vous voyez pas ma tête, mais je... comme ils disent les jeunes, je suis un petit peu en PLS. Donc, comme tu me dis, ce choix, tu fais les calculs, hein, du coup, oui.
Non, ben voilà, si c'est pas un test, parce qu'en fait, j'ai chiffré le truc et je sais, ben, on le portera. Et puis, je vais être transparent, je m'étais posé une question autre, c'est, et si demain, là, le groupe perd de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Et à l'époque, je m'étais dit, je pense que si je reviens vers les équipes et que je leur dis pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, on revient aux 5 jours, le temps de passer la période, ils me suivront. J'avais ça en tête. Alors, aujourd'hui, je le ferai pas. mais parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on travaille mieux en 4 jours qu'en 5. Donc, je sais que je n'aurais pas besoin de revenir en arrière, ce serait une erreur. Mais à l'époque, je m'étais posé la question.
Tu as mentionné le fait que la société était en bourse et que ça impactait directement ta valorisation. Pourquoi tu y vas quand même ?
Parce qu'en fait, pour moi, comme je l'ai dit au départ, la priorité, c'est le bien-être des équipes. Comme je vois que c'est portable par la boîte, que ce que j'ai imaginé, c'est en mode, c'est ce qu'on appelle l'effectuation quand tu es entrepreneur. Tu imagines le pire. Et tu dis, ce ne sera pas le pire, mais je ne sais pas quelle sera la réalité. Et je suis capable de passer le pire. Je sais combien ça va coûter au pire. Donc, en fait, plutôt que de faire 250 business plans, la société est capable de le payer. Donc, j'avance. Quand on est allé en Espagne, c'était la même chose. Quand on est en Espagne, je me suis dit, ça coûte tant. Si je me plante, ça coûte tant. Ça ne fera pas boiter la boîte. Donc, j'y vais. Bah, là, c'est exactement la même chose. Je suis capable de le payer. Donc, j'avance. La bourse, si on gère une boîte par rapport à son cours boursier, on la gère mal. Oui, le marché, à un moment donné, il ne va pas être content de ce qu'on fait. Mais si on gère bien une boîte et qu'on ne la fait pas par rapport au cours de bourse, il sera super content 4 ans plus tard. C'est en instantané qu'il ne sera pas content.
Oui.
Et ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer la bourse, mais qu'on ne doit pas gérer la boîte par rapport à la bourse. Et c'est ce que concrètement, j'ai bien fait de faire, puisque finalement, la mesure a été bien plus efficace. Et les résultats qu'on a fait les années d'après sont aussi la conséquence de cette mesure.
Et justement, les résultats positifs, c'est lesquels ?
Il y a eu de la croissance, mais ce n'est pas les 4 jours. Les 4 jours n'ont pas généré de croissance. Ce qui a généré la croissance, c'était le Covid. Là où il y a par contre eu un effet radical, c'est qu'on était 1050 collaborateurs avant et qu'on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et que je peux te garantir que quand tu allais voir les équipes à la fin de cette année-là, ils étaient KO, rincés. Et qu'on est monté jusqu'à 710, 680 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et qu'on était toujours 1050 et qu'à la fin de l'année, ils avaient la pêche alors qu'ils avaient fait 40% de chiffre en plus et autant de commandes et autant de tout ce qu'il y a derrière et qu'on était passé aux 4 jours 32 heures, donc on travaillait moins en théorie. Avec une boîte qui était heureuse.
Ouais.
Et du coup, tu fais le bilan, j'ai pas recruté. Une boîte qui fait 40% de croissance, elle a forcément recruté.
Oui.
Ça n'existe pas.
Oui.
Donc en gros, j'aurais dû recruter 15%, peut-être 20% de personnes en plus. Et j'aurais dû payer les salaires de ces personnes, voire cette année où on est en décroissance, faire des plans de licenciement, parce que finalement, j'avais trop recruté à ce moment-là.
Ouais.
Et non, tout ça, j'ai pas besoin de le faire. Et du coup, ça crée un climat qui est vachement mieux, une efficacité qui est géniale. Un bénéfice qui est accentué puisque tu as moins de monde que tu n'as pas embauché. Et
oui,
forcément, il y a plus de bénéfices puisque tu ne payes pas de salaire.
C'est ça.
Ou autre. Et donc, à la fin, la mesure, elle est super rentable pour la bourse. Donc, tout le monde s'est retrouvé dans cette histoire.
Ouais.
Mais au départ, je me rappelle que le jour où c'est annoncé, j'ai 2-3 fonds qui sont investis sur le truc qui m'appellent. Mais t'es un plan, là.
Ouais.
Parce que ce n'est pas possible. T'es fou.
Mais c'est, je trouve ça assez incroyable de se dire que. Alors maintenant, on le voit et ceux qui te suivent sur LinkedIn comprennent que tu défends vraiment ce projet-là et t'en parles énormément déjà dans ce podcast, d'avoir cette inflexion et de se dire c'est pas un test, il y a une forme de courage. Je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas parce que même si c'est très juste que tu dis ok, j'ai la vision et je fais le calcul et je peux absorber le choc si jamais ça ne marche pas. Il faut quand même se dire que potentiellement, tu mets de côté ce million et que derrière, la valo, elle change et que derrière, l'impact sur le personnel, il existe. Quoi. Enfin...
Ouais, mais en fait, peut-être que je fais pas tout ça pour, je fais tout ça pour m'éclater. Et oui, je fais, bien sûr, il y en a qui ont dit ta bonne boîte, ce n'est pas une ONG, il ne faut pas gérer comme ça, etc. Non, ce n'est pas une ONG. Au contraire, j'ai envie qu'elle gagne de l'argent parce que j'ai plein de projets, j'ai envie de lancer plein de trucs et j'ai envie que ma boîte soit rentable. Mais j'ai aussi envie que les gens se sentent bien dedans. Et c'est, pour moi, c'est une histoire commune. C'est une histoire avec les 1100 collaborateurs que j'ai autour de moi aujourd'hui. Et ça doit avancer ensemble. Et oui, au moment où je fais ça, je me dis que je gagnerai peut-être un petit peu moins, mais ce n'est pas ce qui va me faire boiter, ce n'est pas ce qui va m'empêcher de vivre. Et si ça peut permettre à chacun de se sentir mieux, tant mieux. Et je ne suis pas dans le calcul, je pensais à une boîte qui a énormément d'argent et qui a encore des gens payés au SMIC chez eux, et au SMIC. Et je me dis, à des moments, c'est rendre un petit peu, parce que dans les mesures que j'ai mises en place, aujourd'hui, le SMIC chez nous, c'est SMIC plus 25%, qu'on a augmenté après le passage aux 4 jours, parce qu'on s'est rendu compte justement qu'on était tellement efficace qu'on pouvait aussi augmenter notre salaire minimum.
Ouais.
Et c'est là, justement, que je dis par rapport à d'autres qui gagnent beaucoup et qui ont encore des gens payés au SMIC chez eux, je dis, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, le gars qui fait des colis, le prix sur le marché du métier, oui, c'est peut-être le SMIC, ok. Mais il est indispensable dans ma boîte. Aussi indispensable que celui qui envoie les mails. Alors, il ne va pas être au même salaire, mais qu'il y ait un écart de salaire qui soit important, alors que s'il ne m'envoie pas les colis, s'il ne met pas le produit dans le carton à la fin, ça déconne pour moi quelque part. Et donc, à un moment, c'était de dire il faut valoriser tout ça parce qu'ils sont tous indispensables. Et pas nécessairement le haut de l'accueil, mais le bas. Pour moi, c'était indispensable de valoriser. Et c'est plus ça, c'est cette considération vis-à-vis des gens. Et le pire, c'est que si tu fais le bilan de tout ce que j'ai pu mettre en place, il est hyper social. On est sans doute une des boîtes les plus sociales. On est aussi une des boîtes les plus rentables à la fin. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça amène tout ça? Quand tu payes bien les gens, tu as besoin de manager, parce qu'ils sont impliqués.
Oui.
Parce qu'ils ont confiance en toi. Ils s'impliquent pour toi.
Ouais.
Ils ne te le rendent pas pour te le rendre en se disant je dois le rendre. Ils te le rendent parce qu'ils se sentent bien. Qu'ils sentent qu'en fait, on rentre dans la considération du salarié. Et à partir du moment où le salarié est considéré, il ne fait pas d'effort en fait.
Non, c'est naturel presque. Ouais.
Naturellement, il en donne plus.
Je me dis que c'est peut-être pour ça que ça marche, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans le RSE et la QVT en se disant, ils regardent, pour le coup, eux regardent le, ok, peut-être que ça peut augmenter les bénéfices, peut-être que ça peut augmenter la productivité, et du coup, leur motivation, c'est l'argent. Et sauf que toi, non. Toi, tu l'as fait d'abord pour te dire, je veux que les gens soient heureux, et si ça marche,
exactement.
Tant mieux.
C'est amusant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, le grand truc des entreprises, c'est d'avoir une raison d'être. D'ailleurs, et dans les périodes où on structurait la boîte, on m'a dit, Laurent, il faut qu'on ait des valeurs. Donc, j'ai posé les valeurs qui étaient les miennes, qui ressemblent à la boîte, parce qu'elles ne sont pas choquantes pour les gens. Et puis, un jour, on m'a dit aussi, il faut une raison d'être. Donc, on a commencé à travailler dessus. Puis, il y a eu le Covid. Donc, on a arrêté, on n'a jamais fini le projet. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? Parce que si je regarde, on me disait, donc, quand tu travailles la raison d'être, on te dit la raison d'être, elle doit réunir 80% des salariés parce qu'ils doivent se sentir impliqués dans ta boîte. Tu regardes les raisons d'être aujourd'hui des différentes boîtes. Je vais caricaturer, mais globalement, on veut le bien de nos équipes et on va sauver le monde demain. Je caricature, mais...
On n'est pas loin.
On ne doit pas être loin de tout ce que tu peux lire à droite et à gauche. En tout cas, on va faire mieux pour demain. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? Parce que oui, bien sûr que si on écrit ça sur un papier, on va réunir 80% des salariés. Parce que ça va être beau. Mais en réalité, on a quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui n'est pas écrit, que j'appelle l'âme. Aujourd'hui, les équipes, pourquoi elles sont investies dans le groupe? Parce qu'elles croient en ce qu'elles font. Il n'y a pas besoin de l'écrire. On sait qu'on travaille tous pour être meilleur demain, pour essayer d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer. Pour chacun, ses raisons plus ou moins personnelles, mais en tout cas, dans un groupe où on se sent bien, considéré, où on est bien, et à partir du moment où on est ça, on a une âme et on avance et on n'a pas besoin d'écrire une raison d'être pour réunir les gens. Et alors, il y a plein de gens qui vont de la raison d'être, qui vont dire, mais non, tu as oublié ça, ça, ça. Ok, ça... C'est parce qu'on a construit tout ce qu'on a au départ que je peux le faire. Et il y a des boîtes qui ont sans doute besoin de réunir les choses pour réunir les gens. Mais si on a une boîte qui est saine, je pense que le plus important, c'est l'âme et qu'elle se sente bien.
J'ai une question qui me vient. C'est une question un peu cruelle, mais il se passe quoi si tu n'es plus là pour être visionnaire du groupe?
Ah, ça, c'est sans doute des points. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit comme moi derrière.
Ouais.
C'est indispensable.
Ouais.
Parce que je pense, oui, que si je ne suis plus là, demain, il y a quelqu'un qui structure la boîte et qu'elle va ressembler aux autres. Après, pourquoi je parle et pourquoi je suis aussi présent aujourd'hui? Parce que je pense qu'il faut faire comprendre que ça marche. Et que non, demain, ce ne soit plus le modèle actuel qui bouge. Parce que oui, 90% des autres boîtes sont différentes. Et quand de temps en temps, on en avait un ou deux d'ailleurs qui étaient très structurants dans la boîte, qui disaient « mais je ne m'y retrouve pas dans ton modèle, Laurent », je dis « écoute, 95% des boîtes dehors qui te correspondent, va rejoindre-les.
Oui.
Mais moi, je vais tenter dans l'inverse, de transformer ces 95% de boîtes dans le bon modèle qui est, et je pense, beaucoup plus sain. »
On est d'accord. Je vais venir sur un autre coup d'éclat, entre guillemets, du 100% pur Laurent, j'ai envie de dire. Et ça me parle, moi, parce que j'étais commercial, je suis très curieux de ça. A priori, tu as enlevé les primes et les commissions. Qu'est-ce qui s'est passé?
De toute façon, il y a toujours un truc. Dans tout ce que j'ai fait, il y a eu un truc avant. Et là, c'était le livre de Daniel Pink, « Ce qui vous motive vraiment », qui parlait justement des primes et tout ce qui était autour des primes, et qui expliquait globalement, je vous encourage à le lire, il m'a vraiment fait basculer, qui en gros explique que la prime, c'est comme la cocaïne ou n'importe quelle autre drogue. C'est-à-dire que tant que tu n'en as pas la dose supérieure, tu vas aller chercher une dose. Mais quand tu t'es habitué à ta dose, finalement, elle ne vaut plus rien. Voire, si tu maintiens la dose, elle perd l'intérêt, elle est moins bon. Tu vas perdre en efficacité.
Ouais.
Il faut toujours que la dose monte, sinon, c'est mort, tu dégrades. Et puis, à un moment, la dose, elle ne peut plus monter. Donc, à la fin, la limite, tu vas être de moins en moins bon. Et du coup, il y a eu plein de tests qui ont été faits avec primes, sans primes, etc. Faire évoluer des gens qui avaient des primes à côté sur les mêmes choses que d'autres qui n'avaient pas. Et on se rend compte que c'est le groupe sans primes qui avance le mieux. Parce qu'en fait, il n'est pas mal habitué, il n'est pas déçu. Il avance pour le groupe. Et d'ailleurs, c'est le discours que j'ai tenu quand j'ai fait sauter la mesure, c'est de dire, mais regardez autour de vous, vous les commerciaux, tous les autres gens dans la boîte, ils se défoncent tous les jours. Et il n'y a pas de prime. Parce que vous me justifiez le fait que sans prime, je ne suis pas capable de... Je n'ai pas la motivation, mais Les autres, ils y arrivent. Donc, pourquoi vous n'y arriverez pas? Sachant que le jour où j'ai supprimé les primes, on va être clair et net, hein, il n'y a pas eu de baisse de salaire. On a pris la meilleure des deux dernières années, on a divisé par 12 et on a dit, voilà, ça c'est votre nouveau salaire, il est fixe, il est gagné. Si le chiffre baisse l'année prochaine, bah, vous gagnerez autant, et c'est
tant mieux pour vous, mieux pour vous.
Si le chiffre augmente de façon disproportionnée, c'est moi qui gagne. Et suivant les années, en fait, bah, ce sera un coup au moins, un coup vous. Et on avance comme ça. Et c'est dur, effectivement, parce que dans la mentalité de commercial, on t'apprend toujours que c'est grâce à la prime que tu vas te tirer vers le haut. Alors qu'en réalité, si on veut travailler sainement, ben, c'est pas la prime qui doit te motiver, c'est vraiment le fait de travailler. Et voilà, je suis sorti de ce bouquin en disant, bah, c'est comme ça, je vais aller leur expliquer. Ça n'a pas été simple. Les arguments que j'avais, il y avait ça. Il y avait le fait qu'il y aurait moins de guerre entre les commerciaux parce que le client, c'est moi qui ai eu le premier téléphone. Il y aurait eu plus de fiabilité vis-à-vis du client parce que c'est pareil. Moi, j'ai vu des commerciaux dire au client, écoutez, on n'a pas reçu les pièces, on vous livre premier jour du mois prochain. Oui, bah oui, j'ai fait mon chiffre ce mois-ci. Je veux vous facturer la semaine prochaine parce que là, j'ai aucun intérêt. Du coup, je pénalise le client. Voir le discours faux. C'est-à-dire que et ça, c'était un problème quand on a installé vis-à-vis des marques avec lesquelles on travaille et qui arrivent sur les plateaux, qui disent, allez, il y a une incentive pour tous ceux qui me vendent de la marque aujourd'hui. Bah, ah ouais. Il n'y a plus d'incentive. Ah ouais. Donc, bah, la marque, quand elle arrive, c'est il faut convaincre mes équipes que c'est le bon produit, mais s'ils les convaincent que c'est le bon produit, ils ne le vendront pas. Et ça complique beaucoup le travail des marques. Il faut vraiment convaincre que le produit est bon. Parce que ça évite, d'ailleurs, l'appel que tu aurais pu avoir ou tu l'as acheté tout seul, mais on aurait pu t'appeler en te disant, aujourd'hui, le meilleur, mon gars, c'est un Lenovo. J'ai une OP, mais achète-le, c'est du tonnerre. Et puis, le mois d'après, dire, putain, il y a un HP, là. Il est meilleur que tous les autres. Enfin, mais le Lenovo que tu m'as vendu la semaine dernière.
Il était moins bien.
Ouais, mais...
C'était avant.
C'était avant. Mais pourtant, c'est celui que je voulais t'acheter la semaine dernière. Ah, merde. Oui, bon, allez. Donc, en fait, voilà, ça permet d'avoir un discours vrai. Et le pire que je me suis rendu compte, parce que quand tu prends ces raisonnements, tu cherches aussi les trucs où tu risques de perdre. Tu risques de perdre un peu de démotivation, peut-être qu'ils ne feront pas les chiffres. Franchement, je me disais, au pire, je vais perdre 2-3 commerciaux, mais je ne vais pas perdre la motivation dans le truc. Puis après, tu te dis, mais je vais perdre sur la marge, par contre, parce qu'ils sont indexés sur la marge. Donc là, ils vont prendre toutes les affaires, ils ne vont plus se poser de questions. Mais en fait, j'ai raisonné à l'envers. Mais ça, tu le vois encore. C'est le truc que tu vois quand tu as fait. C'est que d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est plus le commercial qui a peur de perdre la vente, c'est le client qui n'a plus la force en face. Non, mais quand tu as une prime, tu dois le faire, ton chiffre. Donc, quand le gars te dit, bah, baisser le prix, sinon je ne prends pas.
Ouais.
Si tu dois faire ton chiffre, tu baisses. Mais si tu n'as plus de prime, bah, tant pis.
Bah ouais.
Je perds l'affaire. C'est Laurent qui perdra. Et donc, bah, à la fin, tu redonnes au commercial sa vraie place, le bon conseil au client. Pas de négociation inutile. Et la boîte s'y retrouve. Et le client s'y retrouve aussi. Parce que le commercial qu'il a en face de lui, il est honnête.
Oui.
Il ne va pas lui vendre des trucs pour lui vendre des trucs. Il ne va pas rajouter un produit parce que sur le produit, il y a un truc à gagner.
Non,
il
marge.
Il ne va pas chercher à vendre plus qu'il ne faut. Il va être 100% honnête. Donc, tu gagnes du côté de la société, finalement, un petit peu plus parce que, bah oui, il négocie moins. Il est moins apte à négocier. Mais du côté du client, tu gagnes quand même en échange de ça parce que tu as un gars qui est 100% honnête en face de toi,
ouais,
qui n'a rien à gagner à te vendre ce qu'il ne te faut pas. Au contraire, il a plus intérêt à te dire la vérité.
Oui.
Je vais perdre 3 clients qui sont des hyper négociateurs, qui se foutent
de ça. Sûr, ouais.
Mais je vais gagner combien de clients? Parce qu'à la fin, le discours est devenu 100% net. Et pour être client aussi de mon côté avec des fournisseurs, je préfère le gars qui me dit la vérité, même si je dois payer 5% de plus sans service, que celui qui chante en bobine dès qu'il peut. Et où, même quand il me fait un prix, je me demande s'il n'est pas en train de m'arnaquer.
T'es sûr? Moins 2, t'es sûr?
Il y a un truc, pourquoi tu me le fais? Tu l'avais déjà prévu d'avance. Donc voilà, c'est vraiment tout basé, voilà, honnêteté, confiance, c'est tous les mots qui font fonctionner la boîte aujourd'hui.
Ouais. C'est intéressant parce que c'est des valeurs que, quand j'accompagne des entrepreneurs, du coup, en essayant de leur apprendre, entre guillemets, la vente, c'est vraiment ça, c'est pas perdre du temps justement à négocier un prix qui est in fine pas négociable, qui devrait vraiment pas l'être encore plus quand on est entrepreneur. Toi, tu l'as mis à un niveau encore plus élevé. Et on pourrait se dire, c'est du hardware, il y a du matériel, il y a une marge, c'est fixe. Enfin, c'est facile, entre guillemets, de fixer
en fait, c'est
une amplitude de négociation.
C'est ce qui était compliqué avec un commercial, c'est qu'il y a la rentabilité, il y a la marge du produit, il y a la rentabilité de la boîte, il y a le point mort de la boîte, enfin, il y a la marge derrière. Et c'est qu'à un moment, ils vont toujours chercher plus bas parce qu'il y a une offre en face. Et le gars en face, bah, peut-être qu'il se plie à ce moment-là pour prendre le client à la place d'eux. Je dis, mais si c'est ça, moi, je ne la prends pas parce qu'en fait, c'est en train de perdre de l'argent et tant mieux, vraiment. Et avant, ben, ils ne comprenaient pas parce que oui, mais ma prime, elle ne va pas tenir. Enfin, bon, je ne sais pas ce que ta chiffre est marge. Donc, mais si je ne chope pas cette affaire, je ne fais pas le chiffre. Et là, il n'y a plus ce débat. Et tu reviens dans un débat qui est cohérent, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de réduction.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais ça veut dire que ça devient cohérent. On n'est plus en train de, soit de se mettre en difficulté, soit de... Non, on a un discours qui devient intelligent et où tout le monde est d'accord. Et...
Oui, ça avantage le client et l'entreprise.
Exactement.
J'avais une question plus précisément sur la semaine des 4 jours. Quel obstacle tu as dû franchir pour la semaine des 4 jours, mais aussi au niveau du groupe en lui-même?
Alors, pour la semaine des 4 jours, en fait, le premier obstacle que j'ai eu à franchir, c'est que comme je t'ai dit, je l'ai annoncé du jour au lendemain. Personne n'était au courant. Et ça, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y ait des... Enfin, je m'attendais à ce que ça fasse grincer des dents, mais il y a... T'as tout ce qui va être direction, organisation de la boîte qui va se dire waouh, ça passe pas. Il est fou. Et là, pour le coup, on m'a pris pour un fou.
Ouais.
T'as des services qui bossent beaucoup à des moments, typiquement la compta, les, la paye et autres, qui disent mais comment on va jamais ça en 4 jours? Bah, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Bah, t'as des managers qui se disent mais Laurent, bon, organiser la relation client, ils viennent me voir, on dit on est ouvert 6 jours sur 7, j'ai mes paniques qui sont tordues dans tous les sens, comment je vais gérer ça sur 4 jours? Ça passe pas. En plus, on a la meilleure relation client depuis des années, il m'a dit si, comment je maintiens le truc? Ouais. Ça pose plein de questions. Et puis, des gens qui aussi viennent te voir à titre perso. Laurent, sur 5 jours, je galère. Alors, sur 4, qu'est-ce que je fais? Et eux, j'avais répondu assez simplement. J'avais dit, bah, t'apprendras à déléguer. Mmh. Déjà, j'ai prévu de recruter. Et toi, ce sera l'occasion aussi de lâcher certains trucs et de ne pas te mettre la pression. Donc voilà, il y a un frein. Je dirais qu'il y a 15-20% des gens qui voient le truc. Et tu te dis, waouh, va falloir passer ça. Et ces gens-là, en plus, c'est pas commun. C'était manager, c'était déjà en direct. Qui se disent, mais Laurent, t'es fou.
Oui. Mais si eux ne sont pas convaincus, ça va être difficile pour la reste.
Et c'est souvent, d'ailleurs, on me demande qu'est-ce qu'il faut convaincre quand on met en place la semaine de 4 jours. J'ai dit qu'il faut convaincre le patron. Parce qu'en fait, sa direction va venir le voir en disant c'est pas possible. Donc, s'il ne passe pas en force, ben, ça ne passera pas. Parce qu'il va avoir tellement de monde lui dire c'est pas possible qu'il va dire oh, les deux, là, où il arrache, là, vous êtes sympa avec votre idée, mais regardez, tous les autres, vous les avez mis en panique, on laisse tomber.
Ouais.
Et donc, si lui-même n'est pas convaincu, ça risque de ne pas passer. Parce qu'il y a ce frein au départ. Donc voilà, ça, c'était le gros obstacle. Derrière, la grosse surprise, c'est qu'il n'y en a pas eu d'autres. Parce que c'est pareil, quand on l'a mis en place, on s'est dit, dans 3 mois, on révise tout ce qu'on n'a pas prévu. Parce que sur un projet comme ça, structurel, tu te dis, OK, il faudra faire un point d'étape et corriger. Et bien non, 3 mois après, on s'est dit, c'est bon, on continue. Et on ne change rien. Ça marche. Et on a avancé comme ça. Maintenant, si je viens 2 ans plus tard, en étant une des seules boîtes aux 4 jours, il y a un petit point négatif. C'est qu'en fait, aujourd'hui, en plus dans une année où on est un peu en décroissance post-Covid, ben, y a des gens qui se disent « Waouh, mon manager ne va jamais partir. On est un peu en décroissance, donc comment qu'on retrouve les chiffres d'avant ? Il va se passer du temps, donc ils ne vont pas recruter. Mon manager ne part pas, pas d'évolution. Comment j'évolue dans cette boîte ?» Mais, et c'est là que ça crée de la frustration, ils n'ont pas non plus envie de partir parce que les conditions sont géniales. Ils sont en fait dans cette ambiguïté entre « Ouais, ok, c'est génial les conditions, mais moi je veux évoluer, mais en même temps je ne veux pas partir. » Et ça peut créer de la frustration. Et tant qu'il n'y aura pas plus d'opportunités aux 4 jours à l'extérieur, ben, en fait, ça crée ce truc. Si je te parle du bilan des 4 jours, j'ai un turnover qui est divisé par 4, plus personne part. Alors que les autres sont en train de parler de démission, etc., où les turnovers ont plus tendance à augmenter. Mais voilà, le biais derrière, c'est aussi qu'il a aussi baissé parce que les gens ne veulent pas partir, parce qu'il n'y a pas l'opportunité de partir dans les mêmes conditions à l'extérieur.
Oui.
Et le turnover 1, c'est quand même bien pour une boîte, ça permet du renouvellement. Donc là, limite, il est un peu trop bas en ce moment. Et puis 2, bah, ça crée de la frustration parce que du coup, je ne veux pas partir, mais en même temps, je me sens chiant que je suis en train de me bloquer quelque part.
Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'ambition, entre guillemets, ou le fait d'avoir justement cette fameuse promotion ou ce changement, c'est une fonction cachée de se dire, bah, en fait, je serais mieux ailleurs, mais là, vu qu'ils sont bien au point où ils en sont,
c'est
mitigé, en fait.
C'est pas forcément de l'ambition dans le sens, je vais devenir manager ou autre, c'est l'ambition, j'aimerais que mon poste évolue.
Ouais.
Et donc, trouver d'autres missions dans la boîte ou autre. Mais si la boîte ne bouge pas, ben, où est-ce que vont être les possibilités de « j'ai pas envie de faire ça tout le temps ». C'est plus dans ce sens-là, je pense, que dans le sens de devenir le chef des autres ou de c'est trouver des opportunités à faire plus de choses.
J'ai posé la question des obstacles que tu as dû franchir par rapport à la semaine de 4 jours, mais dans ton aventure entrepreneuriale, ça a été quoi le plus gros blocage ?
Blocage dans quel sens ?
Un obstacle que tu as eu à franchir ou que tu n'as peut-être pas réussi d'ailleurs à franchir.
Pas parler d'obstacles en particulier, plus de frustration d'avoir toujours trop de normes autour de nous.
Ouais.
Je comprends hein, le sens des normes, le sens de vouloir imposer un chemin aux boîtes, parce que bah, typiquement, si on veut être le plus écologique, il faut mettre des normes. Mais à des moments, les normes sont trop contraignantes et tu te dis, waouh, alors pas forcément sur le sujet, mais sur plein de sujets aussi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on me réduit la route et le champ des possibles sans arrêt et que je dois entrer dans ce chemin de plus en plus étroit au fur et à mesure. Et parce qu'on te rajoute des normes tous les jours, on n'enlève jamais.
Oui, c'est vrai. pas comme la semaine de 4 jours.
Et tu te retrouves dans ce truc de plus en plus étroit et tu te dis, waouh, c'est compliqué. Et oui, on le fait parce qu'il faut encadrer. Moi, j'ai un truc que je fais en interne. Au contraire, dans une boîte, par exemple, on va dire, la note de frais, c'est tant. Ou, tiens, là, il vient d'avoir un truc où il ne fallait pas laisser les fenêtres ouvertes avec la clim, etc., économie d'énergie, etc. Et puis, on me dit, tiens, Laurent, regarde, encore deux qui ont laissé leurs fenêtres ouvertes, on va relancer un message général. Je dis, bah, vous voyez les deux fenêtres? Allez les voir. Me faites pas une norme. Tiens, lancez pas un message, oui. On n'est pas tout le monde coupable de ces deux fenêtres en fait.
Oui.
Les gars, c'est le bureau d'à côté, donc allez les voir, vous leur dites de fermer les fenêtres. Oui, mais l'autre jour, c'était lui. Bah, allez le voir, mais allez voir les 3-4. Parce que à chaque fois, si qu'on fait un truc dans la boîte, qu'un truc est fait de travers, vous balancez un mot à tout le monde, bah, faut culpabiliser l'intégralité des gens, alors que c'est 2 ou 3% des gens. C'est ce qu'on fait tous les jours. On culpabilise, là, je vais prendre à la taille, les Français, les entreprises, pour les 1 ou 2% qui font mal. Et je pense qu'il faut plus aller dire à ceux qui font mal, bah, attention, plutôt que de mettre des normes qui s'appliquent à tout le monde et qui donnent le sentiment de vivre dans une prison. Parce qu'en fait, c'est comme si tu montais un mur devant quelqu'un qui ne l'aurait jamais franchi. Sauf que tous les jours, il voit le mur. Et du coup, il a le sentiment d'être en prison, alors qu'en réalité, il n'y a pas de mur. Il ne serait jamais allé de l'autre côté de la barrière. Et il préfère voir un joli paysage avec des montagnes au fond, il ira skier à la fin de l'année, que ce mur qui lui donne le sentiment qu'il ne peut rien faire.
Et comment toi, tu fais pour pas voir le mur?
Bah justement, j'essaie de passer outre et puis de casser les trucs. Pourquoi je vais aux 4 jours, 32 heures? Au départ, je ne me pose même pas la question des murs que je pourrais avoir quand je mettrai la mesure en place.
Ouais.
Moi, je me dis, j'y vais et puis on verra comment on fait. Et c'est ce côté voir du cadre. On m'a souvent dit, par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on met en place, mais pourquoi tu ne fais pas une entreprise à mission?
Ouais.
Bah parce que je vais créer des murs. Parce qu'il y a des normes dans une entreprise à mission.
Ah.
On va me demander de respecter ces normes. Et que si un jour, dans l'entreprise à mission, il y a une norme qui ne me plaît pas, et où je ne suis pas d'accord, bah, je devrais la faire. Et même si aujourd'hui, bah, peut-être que je remplis toutes les cases, et bah, entre autres, la raison d'être, je ne la remplis pas, et bah, c'est pas grave. J'ai sans doute 99% du truc. J'ai peut-être des trucs en avance, des trucs en... mais c'est, je ne vais pas rentrer dans un truc qui, demain, pourrait être un carcan. Alors que si j'en ai l'esprit, je n'ai pas envie d'être dans le truc qui, voilà, qui va me forcer demain à faire les choses.
Très intéressant. Que tu as dit que tu étais ingénieur. Tu as dit que tu as lancé d'abord un cybercafé. Tu savais depuis le début que tu voulais monter une entreprise ou...
Depuis que je suis tout petit.
Ouais.
On peut l'entendre. Alors, pendant très longtemps, j'ai expliqué que j'avais écrit en cinquième une rédaction me demandait ce que je voulais faire, que je serais entrepreneur plus tard. Cette rédaction, je l'ai retrouvée. Et la première ligne de la rédaction, et ça m'a fait sourire quand je l'ai vue, c'est « Depuis que je suis en maternelle, je sais le montrer à mon entreprise plus tard ». Donc, en fait, je suis reporté de la cinquième à la maternelle. Donc, oui, j'ai toujours voulu créer ma boîte. Mais ça, je sais pourquoi aussi. C'est parce qu'en fait, et le truc de ne pas rentrer dans les cases, c'est depuis tout le temps. Je me rappelle d'une discussion que j'avais avec mon père qui me disait, j'étais en jean, machin et autres, enfin, habillé comme ça, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est standard, mais tu te reportes 40 ans en avance, c'est tout standard.
Non.
Qui me disait, mais plus tard, Laurent, tu seras obligé de mettre un costume. Et je dis non, je ne mettrai pas de costume et je créerai ma boîte et on ne me donnera pas d'ordre de mettre un costume parce que ce n'est pas mon état d'esprit.
Okay.
Et c'est peut-être un peu ce côté rebelle de dire, moi de toute façon, comme je sors des cases, je ne rentrerai pas dans une case. Donc, je créerai ma boîte parce que ça me permettra de faire ce que j'ai envie de faire. Et après, l'entrepreneuriat, l'école d'ingénieur, c'est parce qu'en fait, j'étais bon en maths et en physique, mais sinon, j'aurais fait une école de commerce. Mais j'étais nul en histoire et en français, donc je n'avais pas le profil pour...
Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé par un bac technologie, donc STI à l'époque. Et on me disait, mais Charlie, mais t'es nul en maths. Et bac STI technique, le maths, c'était COEF 9 et j'étais vraiment nul. Donc, on m'a dit, tu vas passer en littéraire. Donc, je suis passé de bac technique à bac littéraire. Et bien sûr, ce qui devait arriver, je l'ai eu, ça, c'est sûr. Mais c'est que surtout qu'on m'a dit, bah, tu vas pas y arriver. Tu vas te redoubler ta première, t'es sûr. Enfin, tout ton avenir est foiré. On sait ce qui s'est passé. Donc, je trouve que c'est assez symptomatique d'un cheminement presque naturel qu'on prend.
Mais c'est ce que je te disais au tout début, quand je te dis qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu le parcours idéal et qui pourtant sont des pépites.
Ouais.
Et quand tu les trouves et que tu construis avec eux, tu construis des histoires magnifiques.
Je vais rebondir sur un peu ton histoire personnelle et un peu comment tu vois les choses. La question elle est très simple. C'est quoi pour toi un entrepreneur à contre-courant?
C'est sortir des cases, c'est tout. C'est te dire, OK, il y a telle ou telle chose, mais qu'est-ce que... On n'a pas parlé de l'école LDLC, l'école d'entrepreneurs, qui est une école que j'ai créée il y a 7 ans maintenant, dont l'idée était justement de faire l'école que j'aurais aimé faire. C'est-à-dire une école où tu n'as pas un partiel où tu as dû tout apprendre par cœur, mais une école où tu vas tout apprendre par la pratique, pas nécessairement en entreprise, au contraire même. Mais parce que tu vas faire des TD, des cas pratiques, tu vas avoir des cours magistraux, mais pas besoin de les réciter. Ensuite, on va te mettre un cas pratique et par le cas pratique, tu vas appliquer et du coup, tu vas apprendre ton cours. Mmh. Parce que tout ce qu'il y a besoin de retenir, bah, tu vas devoir le mettre en place dans ton cas pratique. Mmh. Et quand tu mets en place, tu enregistres et tu fais. Et donc, c'est comme ça que fonctionne l'école. Et ils font le cycle des 3 ans. Et à toutes les promos, quand ils sortent, je leur dis tous la même chose. Je vous ai appris pendant 3 ans ce qu'il y avait dans les livres. Maintenant, si vous voulez réussir, vous avez la recette de tous les autres. On vous l'a appris. Et c'est ce qu'il ne va pas falloir pas faire. Il va falloir être différent.
OK.
Il va falloir sortir de ces cases. Mais vous avez un avantage énorme. Vous savez ce que les autres vont faire. C'est écrit dans les livres.
Mmh.
Donc, sachant ce qu'ils vont faire, maintenant, trouvez les solutions pour les battre.
Ça veut dire que, pour justement, ne pas être dans les cases, il faut aussi avoir identifié les cases.
Ah, il faut... Je lis énormément.
Ouais.
J'ai lu, bah, tu vois, tout ce que je te cite, c'est des livres. C'est vrai que j'en ai lu des tonnes, des livres. Mmh. Oui, bien sûr. C'est parce que tu lis beaucoup qu'à un moment, tu trouves la faille. Et que tu dis, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'on va changer les choses.
Mmh.
Puis c'est des trucs que tu écoutes. C'est un gars qui te parle dans un coin et tu dis, mais c'est génial. Et puis il te parle pour un truc et toi, tu le généralises. Je peux pas en parler là, mais j'ai... Pas... Si, je peux en parler là parce qu'on va le mettre en place. Voilà, hier matin, il y a un gars qui me dit... Laurent, il y a un truc là-bas dans un coin sur ce produit, ils ont mis 3 ans de garantie, peut-être que ça leur permet d'en plus. Je suis ressorti en disant, mais on va mettre 3 ans de garantie sur tout le catalogue.
Mmh.
Je fais, mais ça m'a coûté cher. Deuxième, troisième année, oui, ça coûtera de l'argent, mais pourquoi pas, ça va dans le sens de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut que les produits durent plus en plus longtemps, bah, on va y aller. Et donc bah, là, au moment où on se parle, c'est pas en place.
En place.
Si à moi, ce sera en place. Bon, le podcast partira, vous pourrez avoir 3 ans de garantie. Mais voilà, l'idée, elle est venue de une phrase dans un couloir. Et moi, dans ma tête, ça fait « Mais pourquoi on ne le fait pas sur tout le catalogue ?»
Parce que là, la norme européenne, c'est 2 ans, c'est ça, obligatoire. Et toi, tu veux être 3 ans.
On va mettre 3 ans. Et tu dis « Mais ok, ça devrait me coûter... » Tu chiffres un peu le tout.
Oui, bien sûr. Ouais.
Tu chiffres le risque, machin, mais tu dis « Mais en fait, ça va dans le sens de l'histoire. » Donc, eh ben, on va y aller.
C'est assez intéressant comme façon de fonctionner parce que j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, ont tendance à... Bon, tu me diras, l'enjeu est moindre parce qu'ils ne gèrent pas une si grosse entreprise. Mais ils ont tendance à dire « J'y vais. » Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Mais toi, quand même, même si tu as ta vision, tu fais quand même ce calcul.
Je vais être transparent. Ce matin, j'ai posé des règles, j'ai calculé. Oui. Je me suis dit, voilà, ok, voilà le risque que tu as sur ce truc-là. On a fait des simulations, des retours à la deuxième année, etc. Sur des produits, il y a plus de trucs. On a regardé. Mais quand tu vois le truc à la fin, tu dis, bon, bah, ok, il y a un coup, mais on y va.
Donc, un entrepreneur à contre-courant, c'est quelqu'un qui ne va pas dans les cases.
En fait, il faut lire les livres, il faut apprendre. Et il faut se dire, maintenant que je sais ce que les autres font, comment je peux les avoir.
Tout le monde n'a pas cette appétence. Tu vois, tu parlais de je vois la faille. Même si on peut être inspiré, même si on peut se dire, et combien de fois ça nous arrive de dire, même moi, combien de fois je me suis dit, je vais lancer mon business. Et le business, il a 1 an et j'en ai 39. Enfin, je me dis, voilà, je pourrais me dire, bah voilà, j'aurais dû me lancer depuis longtemps maintenant. Et pourtant, je ne le fais pas. Donc, c'est quoi la différence? Comment on...
Bah c'est un truc que j'ai vraiment mesuré avec la semaine de 4 jours. Il m'a vraiment fallu 72 heures pour prendre la décision. Et je vois que ça passe nulle part. En 72 heures, il n'y a personne qui se dit « je passe aux 4 jours ». Et en fait, je me suis dit « mais pourquoi ?» Parce que j'ai quand même des entrepreneurs en face de moi, donc des gars qui ont ce mindset à un point de se lancer. Et ouais, je dois être un petit peu plus fou. C'est-à-dire qu'à un moment... Ou alors il y a le modèle économique ou le fait de me dire mais je fais pas que... Enfin, bien sûr que... Et en plus, je veux gagner de l'argent parce que pour changer les choses par rapport à plein de choses, par rapport à plein de projets que j'aimerais pouvoir faire,
il faut les financer.
Ah. Et donc, il faut gagner de l'argent. Il y a un start-upper là, qui est venu me voir en me disant je crée une boîte, c'est pour changer le monde, etc. Je ne gagnerai jamais un rond avec, mais si tu peux m'aider, le but, c'est pas de gagner de l'argent. Je dis mais si, il faut que tu trouves un modèle économique qui gagne de l'argent. Pas parce que ta boîte, parce que tu veux être sain et dire que je fais une boîte qui gagne pas d'argent. Parce que demain, elle peut avoir un problème, elle va voir grandir. Et puis, si tu gagnes vraiment de l'argent et que tu as vraiment ce mindset, tu pourras encore aider d'autres problèmes.
Ah, plus d'impact. Là.
Donc, à un moment, ton modèle doit être rentable.
Mmh.
Et si ce n'est pas pour toi, tant mieux. Mais ça doit être rentable. Et c'est ça. Et je pense que ce n'est pas le mindset commun encore.
Mmh.
Mais ça bouge.
Ça bouge. Ce sera la conclusion de ce podcast. Avant de finir, quand même, je voulais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, Laurent ?
Ah bah, essentiellement sur LinkedIn.
Ouais.
C'est là que je poste et que j'interviens le plus. Je vais sortir un livre là, qui s'appelle Oser la semaine de 4 jours qui sera sorti je pense au moment de la sortie du podcast qui raconte toute cette histoire, enfin qui raconte l'histoire de l'ALC et beaucoup d'autres choses.
Okay.
Et puis comment on a mis en place, etc. Il y aura peut-être un site à ce moment-là qui encadrera le truc pour essayer de rendre le truc un peu plus visible.
D'accord.
Mais clairement, je passe beaucoup de mon temps sur LinkedIn à répondre à beaucoup de sollicitations.
Dont la mienne. Merci d'avoir accepté. Merci pour ce très intéressant moment. J'espère que toi aussi, tu as passé un moment.
Très bon moment.
Et que ça vous a inspiré. Moi, oui.
C'est le but.
Ça vous a plu ? Alors, abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine !